Chapitre 15. Sur la piste. Si l'inspecteur Lebouc, pour des raisons que nous connaîtrons bientôt, avait abandonné la piste de la poupée sanglante, Jacques Cotentin, que nous avons laissé à Corbillère en face des vêtements en lambeaux de Christine, s'était mis, lui, plus que jamais à la poursuite de Gabriel. Après l'épouvante du premier moment, le prosecteur croyait avoir acquis, sinon la certitude, au moins l'espoir, que sa fiancée vivait encore. Il n'eût pu dire exactement comment s'était terminé, entre la jeune fille et le redoutable automate, le drame qui avait tout bouleversé dans cette chambre, mais bien des indices lui permettaient de croire que, s'il n'avait retrouvé de Christine que sa sinistre défroque, c'est que Gabriel la lui avait fait quitter pour qu'elle revêtît du linge frais et des vêtements décents. Quelques étiquettes restées sur le parquet et révélant les prix d'un magasin de nouveautés de Melun le mirent à même de faire une rapide enquête qui aboutit vite à des renseignements précieux. D'autre part, il découvrit, sous le hangar, la preuve du passage de la petite auto à conduite intérieure volée à ce pauvre monsieur Lavieuville. Et même mieux que son passage, les raisons évidentes de son stationnement dans le mystérieux enclos. Quelques boîtes de peinture fraîchement ouvertes, deux gros pinceaux abandonnés encore enduits de la matière colorante, non seulement attestaient la toilette que l'on avait fait subir à la petite auto, mais encore apportaient le plus formel des témoignages sur son mode de camouflage. Si bien qu'après un voyage de quelques heures à Melun, Jacques Cotentin était suffisamment renseigné pour se faire une idée de la façon dont étaient habillés et la voiture et ceux qui l'occupaient. N'ayant rien laissé derrière lui dans la maison de Corbillère de ce qu'il y avait trouvé, de façon à n'être point gêné dans ses propres recherches, car il redoutait par-dessus tout dans cette affaire l'intrusion de la police. Il put donc se lancer aux trousses de son automate, avec toutes les chances de le rejoindre au plus tôt. Il n'avait déjà que trop perdu de temps. Le sort de Christine devait être lamentable. Les traces de la dernière lutte qu'elle avait eue à subir à Corbillère contre les exigences de la poupée prouvaient que la meurtrière fille de Norbert n'avait accompagné le monstre qu'à son corps défendant et continuait à être sa proie. Aussi, quelle ne fut pas la surprise du prosecteur quand, sur le chemin suivi par les fugitifs, dans une petite auberge des bords de la Marne, il apprit que c'était la jeune fille qui était descendue de l'auto et avait fait elle-même toute provision nécessaire avant d'aller rejoindre dans la voiture le jeune homme qui l'y attendait, assis tranquillement au volant. Après les sanglantes étapes d'une piste où il n'avait découvert jusqu'alors que coups et blessures pour Christine, Jacques ne pouvait que se réjouir de voir que les choses tournaient moins au tragique que le début de l'aventure ne le faisait prévoir. Il s'en réjouit certainement, mais il n'en fut pas moins intrigué. Les voyageurs avaient fait le tour de Paris et pris le chemin de la Touraine, que Jacques connaissait bien. Pour reconstituer cet itinéraire, il perdit encore un certain temps, car la petite voiture à conduite intérieure ne suivait pas toujours la longue route. Les voies détournées, dans lesquelles elle s'était engagée plus d'une fois, témoignaient d'une telle astuce de la part du conducteur que Jacques, en d'autres circonstances, eût pu s'en montrer fier. Hélas, depuis qu'il avait mis son automate au monde, événement qui devait le remplir d'orgueil et de gloire, ce n'est pas trop nous avancer de dire que Jacques Cotentin n'était plus fier de rien. Chose extraordinaire, sa taciturnité naturelle ne faisait qu'augmenter au fur et à mesure qu'il avait de nouvelles preuves que Christine ne suivait plus Gabriel comme une prisonnière, mais comme une compagne. S'il se réjouissait d'un pareil changement, comme nous l'avons présumé, il faut avouer que Jacques Cotentin avait la réjouissance triste. Il y a des caractères ainsi formés qu'ils se montrent indifférents et d'autres autant plus moroses qu'ils sont intimement satisfaits. La surprise de Jacques Cotentin ne fit qu'augmenter quand il constata que nos jeunes gens, en quittant Tours, avaient pris le chemin de Coulteret. Ce doit être là une idée de Christine, se dit-il. Ainsi en était-il arrivé à cette conception que cette singulière randonnée, après avoir été inspirée, et comment, par Gabriel, était maintenant dirigée par la jeune fille elle-même. C'était l'automate qui faisait maintenant ce qu'elle voulait. Et qu'est-ce qu'elle voulait ? Revoir ces lieux, dont le souvenir la hantait, où elle avait laissé l'ombre dangereuse pour imagination de la pauvre marquise, fantôme pâle qui sortait de sa tombe à minuit pour faire un petit tour dans les cimetières. Eh bien, se dit Jacques, après un instant de réflexion qui sembla lui rendre subitement quelque énergie, va pour Coulteret. Aussi bien, ce sera une raison de revoir cet excellent docteur Morisset, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelque temps. Jacques avait loué une petite torpedo qu'il conduisait lui-même. Quand il arriva à Coulteret, il s'enfuit tout de suite à l'hôtellerie de la Grotte aux Fées et demanda le patron. Ben, ce bon monsieur Achard n'est pas encore tout à fait remis, lui répondit la servante. Mais si monsieur veut lui parler, je pourrais l'accompagner jusqu'à la chambre de mon bon maire. Il a donc été malade, interrogea le prosecteur, qui se souciait de la santé du bon maître comme de sa première pièce anatomique. Oh oui, monsieur, bien malade. Mais il est raisonnable, allez, il fait tout ce que lui ordonne monsieur le docteur. Il suit bien son régime. Là-dessus, la servante poussa une porte. Voilà un voyageur qui voudrait vous parler, monsieur, à moins que ça ne vous dérange. Que l'on part, fit entendre le père Achard. Quand on est malade, on n'a jamais trop de compagnie. Entrez donc, monsieur, et prenez la peine de vous asseoir. Jacques fit le tour d'un paravent et aperçut le malade. Il était assis, un bonnet de coton enfoncé jusqu'aux oreilles, en face d'un magnifique feu de bois qui embrasait la haute cheminée. Devant lui, une table abondamment garnie de victuailles et de fioles où pétillait le joli petit vin d'Anjou, attendait le bon plaisir du convalescent, lequel était fort occupé pour le moment à arroser de son jus par le truchement d'une cuillère à long manche une appétissante poularde de Tours qui tournait sur sa broche dans la cheminée. Ah ah, fit Jacques, qui n'était pas habitué au régime de ce pays de cocagne, je vois que si vous avez des souffrances, cela va un peu mieux, mon bon monsieur Achard. Oh, répliqua l'autre en hochant la tête, je fais tout ce que je peux pour cela. Je suis tout de même un peu inquiet. Le docteur Morisset m'a plaqué là depuis 24 heures et je suis bien obligé de me débrouiller tout seul. Je vois que vous ne vous en tirez pas mal. C'est mon régime, monsieur, et bien que vous me sembliez à peu près bien portant, je vous offre volontiers de le partager. Tout l'honneur sera pour moi. Jacques s'assit en remerciant, il n'avait pas faim. Il faudra consulter, monsieur, et surtout consulter le docteur Morisset. Il n'y a pas deux médecins comme lui pour guérir ces maladies-là. Moi aussi, je n'avais plus faim. Eh bien, il m'a dit, « Faut manger, père Achard, et je mange. » Mais qu'avez-vous donc ? Demanda le prosecteur. « Vous avez une mine superbe. » Gémit l'autre en engloutissant une moitié d'andouillette fumante qui embaumait une platée de lentilles qu'on lui avait servie en guise de soupe. Il ne faut pas juger les gens sur la mine. Ainsi, moi, tel que vous me voyez là, bien je suis très mal fichu. Et où souffrez-vous donc? Ben, du côté, monsieur, du côté moral. Ah ah, c'est le moral. Oui, monsieur, c'est le moral. Oh, j'ai le moral très malade. C'est le docteur qui l'a dit. Monsieur, dit Jacques en souriant, car il croyait que le père Achard se gaussait de lui à la mode de ce terroir qui connaît et apprécie la plaisanterie rabelaisienne. Monsieur, je vous souhaite une prompte guérison. En attendant, voici ce qui m'amène. Vous ne me reconnaissez pas, monsieur. Le père Achard le regarda, et puis posa sa fourchette et sa cuillère, car il se soignait des deux mains à la fois, et puis bronça les sourcils. Ah, ça, mais fit-il, je me trompe pas. C'est bien vous qui êtes venu dîner à la maison le jour où nous avons enterré l'empouse. Parfaitement, monsieur Achard, parfaitement. Vous y êtes. Ah, c'est vous qui étiez installé au château, continua l'autre en fronçant de plus en plus les sourcils, avec cette jeune fille qui avait été l'amie de la marquise. Oui, monsieur Achard, et c'est cela même, et c'est avec cette jeune fille que je suis venu dîner chez vous. Vous la rappelez-vous, elle aussi? Si je... Ah, je crois bien que je n'ai rien oublié de la nuit terrible, allez. Je n'ai rien d'y repenser. Je sens que mon moral refoule le camp. Et il fit disparaître la seconde moitié de l'andouillette d'un coup de dent formidable. Sur quoi il vida d'une haleine une demi-bouteille de Vouvray, s'essuya le bec et considéra Jacques Cotentin avec une sorte de consternation mélancolique presque attendrissante. « Et qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda-t-il. « Je voudrais savoir si cette jeune fille, vous l'avez revue, si elle est repassée par ici. » Le père Achard poussa un soupir. « Oh, faut pas vous en faire, jeune homme, croyez-moi. Les femmes, même les meilleures, c'est toujours travaillé par le diable. Croyez-en un homme qui n'est pas plus moche qu'un autre, qui a toujours été gentil avec le sexe, et qui a toujours été trompé. Oh, si fait, jeune homme, oh, si fait. S'il n'y avait plus que ces histoires-là pour me rendre malade, je vous jure bien que j'aurais pas besoin en ce moment de garder la chambre. Alors, vous prendrez bien un verre. C'est du soleil en bouteille que ce vin-là, ça vous remettra le cœur. Eh bien oui, elle est revenue, il n'y a pas 8 jours. Elle était avec un autre, ah, c'est la vie. » Il y eut un silence, puis après une nouvelle rasade, l'autre reprit. « Oh, il ne s'est pas arrêté longtemps, par exemple. Ils étaient dans une petite auto. » Elle en est descendue et on lui a gardé son panier à provisions. Et vite elle est remontée auprès de son godelureau. Elle avait comme honte de se faire voir. Je me suis avancé pour voir avec qui elle était. Eh bien, vous savez, celui qui vous remplace, soit dit sans vous offenser, c'est un beau gars. Si ça peut vous consoler. Oh, les femmes! Enfin, ils sont repartis dans la direction du château. J'ai su depuis qu'elle était allée faire ses dévotions sur la tombe de l'empouse, et puis je ne les ai plus revues. Et l'empouse, l'avez-vous revue? Lança Jacques, sarcastique, et qui, tout en faisant bonne figure aux singulières considérations du bonhomme relatives à son infortune, avait une envie furieuse de lui casser sa soupière sur la tête. Mais il ne s'attendait pas à l'effet qu'allait produire sa question, faite sur le ton supérieur d'un esprit qui se moque d'un imbécile. Le père Achard se leva d'un bloc. Ses belles couleurs, d'un coup, avaient disparu. Un nuage inquiétant avait soudain répandu son voile sur ses yeux, naguère aussi pétillants que le vin, où il retrouvait la joie de vivre. « Oui, monsieur, oui !» dit-il d'une voix sourde. « Je l'ai revue, mais pas plus tard que la nuit même, tenez. où votre ancienne amie est repassée par l'auberge. Je n'ai pas été le seul à la revoir, et ceux qui l'ont revue en ont été aussi malades que moi. Oh, moi j'en ai commis comme un coup de sang. Bridaille, le forgeron, n'a conservé comme une maladie de cœur. Il n'a plus de force en rien, et il lui en faut dans son métier. Verdeil, qui tient le garage au coin du pont, on a eu l'esprit si troublé qu'il prend depuis sa gauche pour sa droite, ce qui est, paraît-il, très dangereux pour conduire une automobile. C'est que, monsieur, ça n'a pas été comme la première fois où nous l'avions aperçu, nous autres, de si loin qu'on a pu depuis nous raconter tout ce qu'on a voulu. Ceux qui n'ont rien vu sont bien forts pour se ficher de nous. Je regrette qu'il n'ait pas été à notre place. Tenez, monsieur, la dernière nuit dont je vous parle. C'était du reste le dernier mardi. Nous étions dans la salle de billard, Bridaille, Verneuil et moi. Nous venions de terminer la partie et chacun se disposait à aller retrouver son lit. Verneuil avait déjà allumé sa lanterne, mais le gaz était encore allumé au-dessus du billard. C'est vous dire si on y voyait clair dans la salle. Tout d'un coup, on a frappé à la fenêtre. « Tiens, dit Bridaille, je parie que c'est ma femme qui vient me chercher. » Et il ouvre la fenêtre. Alors nous, tous les trois, nous poussons un cri et nous reculons. Tout près de la fenêtre, à la toucher, c'était l'empouse. Oh, il n'y avait pas à s'y tromper. C'était la marquise de Coulteret, aussi blanche que la neige, qui n'avait pas cessé de tomber depuis le matin. Et puis nous avons bien reconnu sa voix. En vérité, fit Jacques, qui malgré lui était légèrement ému, elle a parlé. Si elle a parlé, voilà ce qu'elle nous a dit, et nous l'avons encore tous dans l'oreille. C'est moi, père Achard. Il fait froid cette nuit, et j'ai peur, toute seule sur les routes. Voulez-vous me reconduire à mon tombeau ?
Ah, je n'invente rien, je vous assure. Nous étions incapables d'un mouvement et quasi changés en statue.
Tout à coup, elle s'est mise à pousser un cri perçant comme un vrai oiseau de nuit et elle s'est sauvée. Nous avons vu son fantôme disparaître au coin de la route, poursuivi par un autre fantôme. Les fantômes d'empouse la nuit, ça doit se courir après, est-ce qu'on sait? Moi, je suis tombé raide sur le plancher. Bridaille, qui a toujours eu de la religion, il était à genoux, lui, plus ému qu'une nonin qui vient d'entrevoir l'enfer. C'est Verdeil qui a encore eu la force de refermer la fenêtre. Ils ont couché, cette nuit-là, de nouveau, à l'auberge, et le lendemain matin, ils sont rentrés chez eux. Mais nous étions tous les trois si malades qu'il a fallu aller chercher le docteur. Comme un fait exprès, il était absent. Oui, il paraît qu'il était allé voir un client en Sologne. Il n'est revenu que le soir. Il nous a trouvés bien morts. Nous lui avons raconté l'affaire. Il a dit tout de suite, « Ben, voilà ce que c'est le moral qui est affecté. Oui, monsieur, le docteur Morisset n'est pas le premier venu. C'est un homme qui connaît son affaire. Eh bien, il nous a tous examinés, et depuis ce soir-là, nous avons tous la même maladie, qui dit, ça s'appelle un moral affecté. Alors, dit Jacques, il vous a ordonné à tous trois le même régime. Juste, on le prépare ici. Si vous étiez passé par la cuisine, vous auriez vu le régime que la servante va apporter à Bridaille et à Verneuil. Mais c'est moi, sans contredit, qui suis le plus malade, et c'est moi qui ai le plus fort régime. Comme ça, se comprend tout seul. Monsieur, d'avoir regardé et reparlé de ça, je sens que mon moral est repris, je vais attaquer la poularde. Achard ne souriait pas, Jacques non plus, du reste. Il résista à une dernière offre de son hôte, prit congé et remonta tout de suite dans son auto. Il s'arrêta devant la demeure du docteur Morisset, où la servante lui dit que monsieur était absent et ne serait point de retour avant la nuit. Là-dessus, il s'enfuit au garage Verdeil, qui était au carrefour de trois routes, au coin du pont, et se livra à une rapide enquête auprès du garçon, de qui il tira ce renseignement sûr, que l'auto qui l'intéressait avait fait de l'essence et avait réparé le mardi précédent pour se lancer de là sur la route de Saumur, c'est-à-dire à l'ouest. Muni de ce renseignement, il en profita, au grand ahurissement du garçon, pour prendre la route de l'est qui conduit en Sologne. Cependant, il repassait au même endroit à 10 heures du soir et allait coucher à Saumur. Le lendemain matin, à Saumur, il apprenait que les deux voyageurs qu'il recherchait étaient descendus vers les 2 heures du matin, le mercredi précédent, dans le même hôtel que lui, qu'ils avaient demandé 2 chambres, que, levés à l'aurore, ils avaient laissé en garde au garage de l'hôtel leur petite auto à conduite intérieure et qu'ils avaient fait porter leurs bagages à la gare. Jacques put voir l'auto et s'assurer ainsi qu'il était toujours sur la bonne piste. En interrogeant le porteur de l'hôtel, il apprit que les deux voyageurs avaient pris un billet direct pour Nice. Venir à Saumur pour prendre un billet pour Nice, n'était-ce point là le comble de la ruse pour un automate? Un express qui, par tour, allait rejoindre le PLM à Lyon, passait 1 heure plus tard. Jacques le prit, après avoir lui aussi laissé à Saumur son auto dans le même garage. Il n'osait télégraphier à l'horloger de lui envoyer une dépêche dans une gare du parcours Lyon à Avignon ou Marseille, de peur de donner l'éveil à la police avant qu'il lui rejoint lui-même la poupée, jugeait en toute impartialité la situation et prit ses décisions. Et cependant, il brûlait du désir de savoir si Christine lui avait adressé un mot à Paris pour le mettre au courant de sa fugue avec Gabriel et lui donner le moyen de les retrouver. Il ne pouvait imaginer sans douleur que la fille du vieux Norbert acceptât si facilement le sort que lui faisait la poupée sans se préoccuper autrement de son père et de son fiancé. Pour distraire son inquiète pensée, il acheta les journaux. Un titre qu'il retrouva partout lui sauta aux yeux. « La poupée sanglante ». Il connut ainsi la confession affolée de l'horloger, les déclarations du professeur Thuillier et l'indicible émoi de la capitale. À Marseille, les feuilles de la localité commençaient à donner des détails sur le trocard retrouvé dans la petite maison de Corbillère et publiaient des télégrammes relatifs au premier piqué. Comme il fallait s'y attendre, Jacques ne vit là qu'une étrange suggestion, mais tout à fait explicable dans l'état des esprits. Cependant, la constatation que l'on prétendait maintenant avoir fait des piqûres sur le cadavre du père Violette et des dernières victimes de Corbillère, commença à le faire réfléchir. Il savait, lui, comment le trocard s'était trouvé à Corbillère et que la poupée, pas plus du reste que Bénédicte Masson, n'en avait certainement usé. Alors, il y avait donc d'autres pistolets à trocard? On entrait là dans un ordre d'idées où le marquis, dont on n'avait plus de nouvelles depuis la cérémonie funèbre de Coulteret, se trouvait forcément mêlé, et d'où la possibilité de la preuve de l'innocence de Bénédicte, et en conséquence de celle de la poupée, semblait ressortir avec un si subit éclat que Jacques Cotentin se demanda s'il n'allait pas aussitôt prendre un train pour Paris. Mais l'idée de rejoindre ou plutôt la poupée et surtout Christine, dont l'attitude si singulière dans sa passivité le troublait de plus en plus, l'emporta. Et il continua sa route vers Nice. À Nice, il perdit tout indice. Il fit le tour des hôtels, il lui fut impossible de savoir où les deux personnages étaient descendus. Comme le soir même, il se tenait accablé devant une table de salon où traînaient des hebdomadaires locaux, lesquels donnaient les noms des voyageurs nouvellement arrivés et l'endroit où ils avaient élu domicile, liste sur laquelle il avait en vain cherché une indication quelconque, par exemple les noms de M. et Mme Lambert, sous lesquels Gabriel et Christine s'étaient inscrits à Saumur. Ses yeux rencontrèrent les noms des étrangers montés récemment à la station d'hiver toute proche dans la haute montagne, à Peyrakava, jeux et sports d'hiver, et descendus à l'hôtel des Fiers Sommets. Parmi ces noms, l'un d'eux lui fit pousser une sourde exclamation. Monsieur et Madame de Baigneville. Mais c'était là le nom de jeune fille de la mère de Jacques. Le père de Jacques avait épousé une demoiselle de Baigneville et signait même souvent Cotentin de Baigneville. Ce nom avait été certainement choisi par Christine pour lui donner à tout hasard une indication à lui, Jacques, sans que Gabriel s'en doutât. Christine pensait toujours à lui. Chapitre 16. Idylle dans les neiges. Dès lors, la conduite de Christine lui parut toute naturelle. Certainement, elle s'était rendue compte, et à quel prix, les premières traces de l'effroyable aventure l'attestaient, que la résistance à la force forcenée de l'automate ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. Elle avait fini par le suivre de bonne grâce, en apparence, et pour ne pas laisser livrer à elle-même cette terrible mécanique à cerveau d'assassin. Car Jacques ne pouvait oublier que Christine, elle, ne doutait point de la culpabilité de Bénédicte Masson. Pauvre chère adorée Christine. Avec une conviction pareille, quel héroïsme lui fallait-il pas déployer pour vivre dans une aussi redoutable compagnie en souriant, en s'inclinant docilement devant les quatre volontés de Gabriel, qui devait passer son temps à la surveiller, lui défendre un pas, un geste qui pût mettre sur leurs traces et rompre cette intimité qu'il n'avait osé espérer dans sa vie normale, sous son masque hideux, et dont il n'était redevable qu'à sa sublime aventure. Et voilà que Christine avait trouvé cela. Elle envoyait à Jacques, à travers l'espace, cet appel qui ne pouvait être compris que de lui seul, Baigneville. Et cet appel l'avait touché comme une onde hertzienne rencontrant l'appareil récepteur. Et il accourait. Il allait la sauver, la débarrasser de son tyran. Ah, il ne s'agissait plus d'amour-propre d'auteur. Il maudissait une fois de plus son génie qui n'avait abouti qu'au supplice de Christine et au sien. Cette merveille, son œuvre, son enfant, il n'hésiterait pas à l'anéantir. Il n'y avait qu'une chose de vraie au monde, serrer Christine dans ses bras. Le reste n'existait pas. Ainsi couraient les pensées de Jacques, pendant que l'autocar remontait la vallée du Paillon, tournait le flanc des monts, laissait derrière lui l'Escarène, s'arrêtait pour souffler quelques minutes sur la petite place de Lucéram et permettre aux voyageurs de visiter la curieuse église, les ruines du château fort, les remparts de cette colonie romaine que fut Luceara. Vieille pierre, vieille image, gouffre du passé, qu'étiez-vous pour un homme qui s'était penché comme Jacques Cotentin sur le gouffre de l'avenir et qui courait à la recherche du démon qui venait de surgir de l'abîme à l'appel imprudent de sa voix? Malheur à ceux qui devancent le temps, qui anticipent sur l'heure, qui règlent la marche du troupeau. Malheur à l'inventeur. En attendant les lumières de l'avenir, on lui tresse des chaînes. D'une main, il lance sur le monde l'étincelle de Prométhée, mais quand il ouvre l'autre, il y trouve le petit oiseau funèbre qui sera un jour prochain le grand vautour qui lui fouillera le sein. Paroles pompeuses en vérité, mais à la taille de ces demi-dieux dont le front vaincu continue à menacer l'univers. Hélas, elles le détonnent un peu quand il s'agit d'un pauvre amoureux comme Jacques Cotentin qui ne demande qu'à oublier son génie dans un baiser. Évidemment, la tragédie est moins haute, mais elle est tout aussi humaine et peut-être bien plus touchante. Enfin, nous donnons notre Jacques Cotentin pour ce qu'il est, à la mesure d'une époque où les héros n'ont pas été bâtis tout d'une pièce comme dans le granit mythologique. Ah, l'impatience de Jacques sur la petite place de Lucéram, et comme il maudit ce brave curé qui joint à toutes ses vertus l'enthousiasme renseigné d'un antiquaire devant ses beaux rétables et ses primitifs sacrés. Enfin, voici revenus les touristes, qui serrent leur petit guide sur leur cœur avec la conviction attendrissante du devoir accompli. En route, en route! Il paraît qu'il fait là-haut un certain temps qu'il pourrait bien réserver à messieurs les voyageurs des surprises désagréables. À partir de Lucéram, l'ascension se faisait plus ardue et les premières neiges commencèrent à apparaître, en même temps qu'un panorama d'un relief chaotique étendait son cercle immense jusqu'à l'horizon de la Côte d'Azur, entrevu comme un lointain paradis. Jacques était sûr que Christine avait toujours ignoré ce pays, mais au cours de ses voyages, Bénédicte Masson avait dû passer par là, y rêver peut-être d'une retraite solitaire ou à deux, qu'il était en train de réaliser. Une demi-heure avant d'arriver à Peyrakava, 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'autocar dut s'arrêter. La neige, tombée dans la nuit même avec une extrême abondance, encombrait la route pour ne laisser passer aucun véhicule qui ne fût pas un traîneau ou une luge. Pour les consoler, le chauffeur apprit aux voyageurs que l'événement n'était pas extraordinaire, et que les habitants de Peyrakava, presque tous les hivers, avaient ainsi l'occasion de rester à peu près isolés du reste des humains pendant une semaine ou deux. Aussi les hôteliers avaient-ils la précaution de se munir de conserves, ce qui permettait à leur clientèle de ne pas mourir de faim. Cette aventure, pour ceux qui étaient bloqués, était considérée non comme un sujet d'épouvante, mais comme un divertissement nouveau. Elle était moins drôle, par exemple, pour les touristes qui se trouvaient arrêtés dans leur excursion, obligés de renoncer à leur déjeuner et de rebrousser chemin vers Lucéram, car très rares étaient ceux qui se décidaient à continuer leur route dans la neige sans être équipés pour une telle expédition. Jacques, cependant, n'hésita pas. N'ayant pour tout soutien qu'un bâton, il entreprit quoi qu'on pût lui dire le voyage au bout duquel il arriva exténué et mourant de faim. Il avait mis 3 heures pour faire une lieue. Dans quel état se présenta-t-il à l'hôtel des Fiers Sommets où il avait lu qu'étaient descendus M. et Mme de Baigneville? Cet hôtel était tenu par 3 sœurs, Mlle Élise, Florise et Denise. Elles s'empressèrent autour du voyageur dans le plus louable esprit de charité. Mais Jacques, s'étant installé devant le poêle, dont la bonne chaleur faisait fumer ses vêtements comme des copeaux, ne répondait à toutes leurs questions que par ces mots « Monsieur de Baigneville est-il toujours ici ?» Elles lui dirent tout de suite que Monsieur et Madame de Baigneville n'avait fait que passer 24 heures à l'hôtel des Fiers Sommets. Mais comme, à la suite de ce renseignement, leur hôte semblait montrer plus d'accablement, elles s'empressèrent de lui apprendre qu'il n'avait pas quitté le pays. Bien au contraire, Ils avaient loué à l'orée de la forêt de la Mérise, sur le chemin de Turigny, un petit chalet isolé où ils vivaient là d'une façon assez retirée. Ce doit être un nouveau ménage, expliqua Mademoiselle Denise avec une conviction charmante. Cela se devine tout de suite. Ils sont gentils l'un pour l'autre, ils ne se quittent jamais. Ils passent bras dessous en se disant des choses à l'oreille. C'est délicieux de les voir. Du reste, ils sont très beaux tous les deux. Ils font l'admiration de tout le monde ici, bien qu'ils vivent un peu en sauvage. Je veux dire qu'ils n'admettent personne dans leur intimité. Oh, ils ont bigrement raison. C'est plaisir de les voir assis l'un à côté de l'autre, l'après-midi sous un sapin, à bras de la cour, la main dans la main, regardant les autres faire du ski ou se luger. Et puis, ils se retournent, comme ils sont venus. C'est beau, l'amour. Mademoiselle, fit d'une voix rauque Jacques Cotentin, qui souffrait le martyre, mademoiselle, permettez-moi de vous dire que vous faites complètement erreur. Je connais ces personnes dont je suis le proche parent. Elles se sont réfugiées ici, loin des importuns, pour se reposer dans la paix des montagnes de grands travaux et de grandes douleurs. Non, ce n'est point un jeune ménage. Une amitié sainte les lie l'un à l'autre. Peut-être avez-vous mal compris, mal lu sur votre registre. Il s'agit de monsieur et de mademoiselle de Baigneville. C'est le frère et la sœur, ni plus ni moins. Voilà. Qu'est-ce que nous disions ? Firent entendre en même temps Mademoiselle Élise et Mademoiselle Florise. Nous pensions bien, nous, qu'ils étaient frères et sœurs, expliqua encore Mademoiselle Florise. Cette belle personne avait des soins quasi maternels pour son compagnon. Monsieur, ils ont passé 24 heures ici. Lui, il avait une chambre au levant qui regarde près de la cour. Et elle ? Continua Mademoiselle Élise, une chambre au couchant, face au Montgelas. Eh bien, voilà une histoire, exprima Mademoiselle Denise en haussant les épaules. C'est toujours comme cela dans le grand monde. On voit que c'est les gens du grand monde. Oh, et pas des nouveaux riches, vous savez. Jamais un mot plus haut que l'autre. Tenez, ce monsieur de Bailleville, je n'ai pas entendu un mot sortir de sa bouche. Il est muet, prononça Jacques Cotentin. Oh, le pauvre monsieur, nous comprenons maintenant pourquoi sa sœur ne le quitte pas. Es-tu convaincu maintenant ? Demandèrent Mademoiselle Élise et Florise à Mademoiselle Denise. Il le faut bien, leur accorda avec une moue souriante Mademoiselle Denise. Il le faut bien, puisque monsieur, qui les connaît, m'affirme que j'ai tort. N'importe, permettez-moi de le regretter, parce que c'était bien joli. Il faut pardonner à notre sœur, firent Mademoiselle Florise et Élise. Elle est un peu romanesque. Attendez, s'écria Mademoiselle Denise, les voici qui passent. Dites-moi s'ils n'ont pas l'air de deux amoureux. Jacques, à qui l'on venait de servir un bouillon chaud et qui déjà y trempait ses lèvres, posa là son bol et courut à la vitre contre laquelle il appuya son front. C'était bien eux, mais c'était vrai, hélas, qu'ils avaient bien l'air de ce que disait Mademoiselle Denise. Ils étaient habillés tous deux de tricots de laine blanche, les cheveux dorés de Christine, sous sa toque trop petite pour les contenir, lui faisait une auréole joyeuse. Lui passait, grave et beau, son visage de mystère à demi enfermé dans le cadre hermétique du passe-montagne. Elle lui serrait tendrement le bras, et ils croisaient leurs regards qui se disaient tant de choses à défaut de leurs lèvres muettes. Mademoiselle Denise était restée en extase. Mademoiselle Florise et Élise proposaient déjà aux voyageurs de faire prévenir le couple. « Oh non, 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 ne les dérangez pas, fit Jacques brusquement en se retournant. Et il était si pâle, si pâle.
« Oh, monsieur, vous allez vous trouver mal ?» s'écria mademoiselle Denise.
Jacques était retombé sur sa chaise. « Oh, ce n'est rien, c'est la fatigue. » Il but son bouillon lentement. Et en buvant à petites gorgées, il avait un sourire plein d'amertume. « Si je disais à mademoiselle Denise, pensait-il, que cette jeune personne ne tient si solidement ce jeune homme que dans la crainte de le voir tomber, événement qui donnerait lieu à une scène ridicule, peut-être serait-elle moins enthousiaste du spectacle auquel elle vient d'assister. Le beau Gabriel n'a pas encore appris à se ramasser tout seul. Très, très lamentable chose que l'amour. Le génie de Jacques se réjouissait de n'avoir mis au monde qu'un être imparfait et en arrivait à se railler de sa propre impuissance parce qu'il avait vu Christine sourire à un enfant sublime. Hélas, hélas, c'était encore mademoiselle Denise qui avait raison. Christine pouvait tenir le bras de monsieur de Baigneville solidement. Elle ne l'en tenait pas moins tendrement. Et Jacques le savait si bien que c'est sans allégresse qu'il prit quelques instants plus tard, en dépit de sa fatigue immense et d'un moral accablé, le chemin suivi par l'heureux couple, chemin qu'achevait de débarrasser une équipe de chasseurs alpins et au bout duquel il trouva le petit chalet à l'orée de la forêt de la mer Irise. Bénédicte ou Gabriel, il lui faut toujours un refuge au fond des solitudes, et avec des femmes, songeait le prosecteur. Et l'amoureux ajouta, « Oui, mais aujourd'hui, celle-ci ne le fuit pas. » Jacques allait tourner le coin de la petite maison de bois quand il entendit la voix de Christine et s'arrêta net. Elle parlait à Gabriel. Jacques ne les voyait encore ni l'un ni l'autre, mais tous deux devaient se tenir à une fenêtre d'où ils découvraient le cirque prodigieux des Alpes, éclairé par les jeux du soleil couchant. Pendant plusieurs heures, les cimes étaient restées enveloppées de brouillards opaques, où on les devinait à peine dans un chaos gris et humide, puis tout à coup, comme par une sorte de fiat lux, occasionné par un de ces brusques coups de vent qui sont si fréquents dans les Alpes, le rideau des nuages avait été soulevé, déchiré, et toute l'ordonnance des montagnes, vallées, plateaux, apparaissait comme toute frémissante de la primitive fournaise. La voix s'était tue. Peu à peu, les cendres violettes du soir vinrent apaiser cette flamme, et la lune apparut sur son char d'argent. La voix de Christine s'éleva à nouveau.
« Comme c'est beau, comme c'est beau. Oh oui, tu as raison, mon chéri. Tout est beau maintenant. »
Elle le tutoyait. Elle lui prodiguait les plus doux noms. Et l'autre trouvait que tout était beau maintenant. Elle attestait aussi cette phrase que les deux jeunes gens communiquaient, malgré le mutisme de la poupée, avec une facilité qui avait été prévue. Car Jacques n'avait rien oublié autant que possible. N'avait-il pas fait apprendre à Christine le langage des sourds-muets, pour qu'elle l'enseignât à son tour à la poupée, ce qui, avec le truchement des petits papiers, devait permettre une conversation de plus en plus rapide entre l'automate et ses créatures. Maintenant, la poupée ne devait plus avoir besoin de petits papiers. Pourquoi s'écrire quand il suffit pour se comprendre d'un signe ou d'un regard? La voix, qui ne lui avait jamais parlé ainsi à lui, Jacques, continuait de dérouler sa mélodie.
Rien ne saurait être plus beau que ce qui se passe dans ces minutes sacrées, mon Gabriel. Quelquefois, ton regard me fixe avec une tristesse soudaine qui est un sacrilège. Ne m'as-tu pas dit 100 fois que, avant ce miracle béni, la vie avait été pour toi le pire des maux et que tu goûtais maintenant la joie pure des dieux? Tes chants de poète ne sont plus que des chants de triomphe. Au matin, quand tu me les apportes, au sortir de la nuit sainte, je les apprends et les grave dans mon cœur. Ne sois pas triste, ne sois pas triste, ô Gabriel. Écoute le chant de ta dernière nuit. Qu'importe que dans les mondes qui parcourent des cycles trop petits pour que s'y arrête notre pensée, qu'importe que dans les mondes qui ne possèdent qu'un unique soleil, les sables du temps s'assombrissent, tandis que les mondes s'écroulent, non, resplendissement t'appartient. Ô Christine, t'écris-tu, laisse ta demeure cristalline, porte les secrets de ma pensée à travers le ciel supérieur, divulgue ton message aux orbes orgueilleux, et ne crains pas que les étoiles ne tremblent devant le crime de l'homme. Ton enfant est pur qui est sorti de ses mains, et ses mains sont vierges du sang du sacrifice. Un silence terrible, où sonne furieusement aux oreilles de Jacques étourdi l'écho de ces 3 mots d'une humilité dominatrice. Mon resplendissement t'appartient. Après cet envol qui trouvait les plus lointains confins de l'espace, le dialogue, ou plutôt le monologue à deux, retomba doucement au niveau de la conversation. Mais encore, quelle conversation ! Tes souffrances, mon Gabriel, et la mort t'ont fait une âme unique. Tu es le seul être dont une femme puisse approcher avec la confiance, le respect et l'amour infini qu'elle doit à son Dieu. Si mon Gabriel est triste, il me verra triste parce qu'il sera au-dessous de son destin. Nous avons retenu ton âme libérée de son corps. Tu nous dois ta joie. Qui pourrait assigner une borne aux facultés de l'âme lorsqu'elle n'est altérée par aucune pensée terrestre, souillée par aucun limon humain? Si tu n'étais pas ce que tu es, je ne te dirais pas « je t'adore ». Jacques se retint au mur pour ne point chavirer. Et puis, comme il entendait que le refermait une fenêtre, il eut encore la force de faire quelques pas en chancelant. Christine, qui tirait les rideaux, l'aperçut. Elle lui fit un signe qui le cloua sur place. Quelques minutes plus tard, elle le rejoignait. Elle lui dit haletante : « Va-t'en, va-t'en, qui ne te voit pas. Tu es descendu à l'hôtel des 3 sœurs. J'irai te voir ce soir. » « Oh, fit Jacques, je ne veux pas vous gêner. » Et il reprit lamentablement le chemin de Peyrakava, comme un pauvre Jacques qu'il était. Chapitre 17. Oh, j'ai froid, d'un froid de glace. Oh, j'ai froid, d'un froid de glace, et je brûle à toute place. Sous la glace et dans le feu, tu retrouveras ton Dieu, Verlaine. Rentrant à l'hôtel, Jacques faisait pitié. Cependant, il repoussait tous les soins. Dans leur discrétion, les 3 sœurs n'insistèrent point. Tout de même, la servante du premier étage, la bonne Catherine, sur les indications de ses demoiselles, bourra le poêle de sa chambre de bûche bien sèche
et glissa une brique chaude dans ses draps. En même temps, on apporta au voyageur un grog bien chaud. Mais il laissa tout refroidir, le poêle, la brique et le grog. Si bien que 2 heures plus tard, enveloppé dans une méchante couverture au fond du fauteuil où il avait laissé crouler sa misère, il était grelottant, crachotant, toussotant, cependant qu'il sentait les premières ondes de la fièvre parcourir son corps sans défense. Sur ces entrefaites, on vint lui annoncer la visite de mademoiselle de Baigneville. Il la regarda entrer dans sa chambre d'un œil morne.
« Oh, mon pauvre Jacques !» gémit-elle tout de suite. « Mais il faut te soigner. Qu'est-ce que tu as ?»«
Tu me le demandes ?» fit-il. « Oh, rien de bien grave, va. J'ai froid au cœur. » Il se mit à éternuer.
« Oui, eh bien, tu vas te coucher, tu vas te laisser soigner. Mais ta respiration est déjà embarrassée. Catherine et moi, nous allons te mettre des ventouses. »
Le malheureux fit entendre un rire déchirant. « Et Gabriel, est-ce que tu lui mets des ventouses à Gabriel ?»«
Mais non, mon ami, il se porte très bien, » répondit Christine avec une candeur un peu étonnée. « As-tu donc oublié qu'il ne craint ni le chaud ni le froid ?»«
Non, non, certes, je ne l'ai pas oublié. »« Heureux Gabriel, pas de rhume de cerveau, pas de coryza, » dirait M. Biroust, en le déplorant du reste. « Avec Gabriel, le commerce des herbes fait faillite. Pas de fumigation, et quant à la vaseline mentholée pour les fosses nasales... »
Oh, Jacques, si c'est pour me donner le spectacle de ta glaciale ironie.
Glacial est le mot, ma chère Christine. Je suis ironique parce que je suis glacé. Allez, pardonne-moi cet accès de mauvaise humeur.
Mais indigne d'un homme comme toi.
Indigne d'un homme comme moi?
Mais qu'as-tu fait de ton esprit supérieur?
Oh, puisque tu me le demandes, je te répondrai que je n'en sais plus rien. J'ai dû le laisser en route, quelque part dans les neiges.
Oh, au fond, vous êtes bien tous les mêmes, les hommes. Vous êtes très forts. Vous vous sentez des muscles escalader le ciel, mais au moindre bobo, patatras. Et vous ne voulez pas que l'on vous soigne. Vous êtes tous aussi insupportables les uns que les autres.
Serait-ce pour Gabriel que tu dis ça? Reprit Jacques en tisonnant son feu. Pourquoi pas, vous avez une pudeur stupide. Vous oubliez que nous sommes des sœurs de charité?
En ce qui concerne Gabriel, par exemple, quand le moment était venu de le soigner, il n'a jamais voulu que je m'en mêle. J'ai dû tout lui expliquer et il s'est soigné tout seul. Il ne veut pas me confier ses petites clés. Et comme il dit, il fait son ménage lui-même.
Le principal, reprit Jacques d'une voix de plus en plus encombrée par une toux irritante et irritée, le principal est que vous ayez fini par vous entendre.
Comme tu me dis cela, exprima Catherine en fronçant légèrement ses beaux sourcils. « Me le reprocherais-tu par hasard ?»«
Que non pas, mais tout en m'en réjouissant, j'aurais peut-être le droit de m'en étonner. »«
Je suis passé par Corbière, Christine. J'en ai rapporté tes petits papiers, enfin, j'y ai relevé les traces d'un drame qui m'avait fait craindre pour ta vie. »
Quelle surprise et quelle joie pour moi de vous avoir vu passer ici la main dans la main.
Mais tu vas tout comprendre d'un mot, mon Jacques. C'est toi qui avais raison. Bénédicte Masson était innocent. C'est Gabriel qui t'en a convaincu?
Oui.
Il t'en a convaincu sous peine de mort?
Peut-être bien.
Je crois en effet que s'il n'était pas arrivé à me convaincre de cela, nous ne serions plus dans ce monde, ni moi ni lui. Il m'entraînait dans une catastrophe d'où tu ne t'aurais pas cette fois ressuscité.
Et que t'a-t-il dit pour te convaincre de cela?
Jacques, tu te rappelles que lorsque nous travaillions aux grandes œuvres et que tu t'occupais des yeux, tu me disais « Il verra, mais je ne crois pas qu'il pleure jamais. » Eh bien, il a pleuré. Ah, quand j'ai vu couler ses larmes sur la cire de son visage, il m'a semblé que son âme que nous avions enfermée dans une boîte en sortait pour me dire « Christine, voici ton œuvre vivante, non plus le geste d'un automate, mais ma douleur que tu as voulu éternelle. Es-tu satisfaite ?» Alors, j'ai essuyé ses larmes, mais elles n'ont cessé de couler que lorsque je lui ai dit « Cesse de pleurer, Gabriel, car je crois à ton innocence. » « Ah ah, vous tutoyez !»« Oh, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Mais cependant, le sujet est grave. »
Si grave, Christine, non seulement pour lui, mais pour nous tous, que je n'ai pas hésité ce soir à venir troubler.
Quoi?
Non, rien. Parlons de l'innocence de Bénédicte Masson. Pendant ce temps-là, j'essayerai d'oublier Gabriel.
Jacques, Jacques, tu as de mauvaises pensées.
Je suis un homme.
Mais Gabriel n'est pas un homme.
C'est pire.
Mais n'est-ce pas toi qui l'as voulu ainsi?
Parlons de son innocence, te dis-je, de son innocence en tant qu'homme. Alors tu l'as vu pleurer et tu as eu la foi.
Oui, la foi. Il n'y a pas d'autre mot.
Et cela lui a suffi, ta foi.
Si bien qu'il a consenti alors à m'expliquer. Tant que je n'ai pas cru en lui, tant que je me suis imaginé que j'étais la proie d'un monstre, il s'est conduit comme un monstre, m'emportant dans sa rage et dans son tourbillon. Mais quand il m'a vu attendri par ses larmes, il m'a humblement soumis le détail de sa misère avec une confiance d'enfant. Il s'est mis à genoux pour me tendre ses héroïques, hallucinants, pitoyables griffonnages où son innocence criait et s'expliquait. Et mon Dieu, c'était si simple, si simple. Tu vas en juger, Jacques. Il est vrai qu'il cachait au fond de sa cave tout le bagage des femmes disparues. Mais puisqu'elle l'avait laissé derrière elle, ce bagage, qu'aurais-tu voulu qu'il en fasse? Qu'aurait-il pu répondre à ce qu'il eût interrogé? Je te le demande.
Tu me demandes cela à moi, qui ai toujours cru à l'innocence de Bénédicte Masson? Les femmes ont en vérité une façon de concevoir la logique. Allez, va, Christine, continue. Tu m'intéresses et que dit-il du père Violette?
Il dit que le père Violette était peut-être le seul à savoir la vérité, ou tout au moins qu'il l'avait apprise à ses dépens au moment de sa mort, et c'est de cela qu'il serait mort. Gabriel s'imagine que le garde a dû assister à l'attentat dont a été victime la petite Annie. Violette surveillait Annie fort activement depuis plusieurs jours. Il a dû se trouver là et sans doute intervenir au moment du drame. Et l'on a supprimé le père Violette.
Il y eut un silence entre les deux jeunes gens. Puis Jacques prononça lentement. Je m'étais déjà dit tout cela, et non seulement je me l'étais dit, mais je te l'avais dit à toi, Christine. Tu ne t'en souviens peut-être pas.
Si.
Heureuse mémoire.
Mais tu me l'avais dit, mais je ne voulais, ou plutôt je ne pouvais rien entendre à cause de l'horrible scène.
Ah oui, le cadavre d'Annie. Rappelle-toi encore ce que Bénédicte disait au procès, ma chère Christine. Ce n'est une raison pas parce que l'on découpe une femme en morceaux pour qu'on l'ait assassinée. À moi, cela me semblait l'évidence même.
Qu'il ne l'eût pas assassinée.
Non, distinguons l'évidence même que cela n'était pas une preuve que Bénédicte Masson eût assassiné la petite Annie. Vois-tu, Christine, quand on a raison, il faut savoir distinguer. Hélas, ce n'est généralement pas dans leur raisonnement que les femmes mettent de la distinction. En ce qui me concerne, je ne m'en plains pas, tant que je ne m'asseyrai pas sur les bancs de la cour d'assises.
Tu es cruel, Jacques.
Non, je prends mes précautions.
Jamais je n'aurais cru qu'un homme puisse changer pareillement un homme. Je te pardonne, tu as une méchanceté de malade.
J'attends l'histoire du cadavre de la petite Annie, soupira Jacques avec lassitude. Est-ce qu'il la raconte bien?
Et voici ce qu'il me dit.
Un jour que Bénédicte rentrait chez lui, le courant de l'étang lui amena ce cadavre presque devant sa porte. Le relieur ignorait alors que le père Violette eût été assassiné. Aussi ne redoutait-il rien tant que de voir le garde découvrir lui aussi le corps d'Annie. Son ennemi ne rôdait-il point toujours dans les environs? Enfin, Bénédicte était au courant de tous les méchants bruits qui couraient à Corbière. Non seulement Annie passerait certainement pour avoir été la victime du pot rouge, mais encore elle devenait la preuve que celle qui l'avait précédée chez Bénédicte l'avait été aussi. Et dans le désordre de son esprit et obéissant au premier instinct de la défense personnelle, il se pencha, saisit le cadavre et, comme il n'avait que quelques pas à faire pour être chez lui, il l'y jeta, referma la porte et commença à réfléchir. Peut-être alors comprit-il que son geste avait été le plus dangereux de tous, mais en tout cas je le considère, moi, comme tout à fait explicable. Maintenant, le plus grand danger était de ressortir le cadavre. Ne valait-il pas mieux le faire disparaître à domicile? Mais comment? L'enfouir dans la cour, le jardin? Après cette nouvelle disparition, Bénédicte Masson pouvait craindre une perquisition, une enquête qui bouleverserait tout chez lui. Et ainsi fut-il conduit à l'idée du dépeçage nécessaire du pauvre petit corps dont il brûla les morceaux dans sa cuisinière. Il descendit le cadavre dans sa cave, et tandis que son poil ronflait déjà là-haut, il commença son horrible besogne, et il l'achevait comme je me présentais à sa porte. Tu connais la suite, Jacques. Bénédicte Masson est un martyr. Et Gabriel est un ange, acquiesça Jacques avec un amer sourire qui fut coupé par un éternuement aussi retentissant que ridicule.
Allez, Jacques, tu n'es pas raisonnable, laisse-toi soigner, je t'en supplie, tu grelottes.
Je demande un bonnet de coton, réclama Jacques avec un affreux rire de crécelle. Christine, excédée, haussa les épaules.
« Jacques, Jacques, je ne te reconnais plus. Depuis que j'ai franchi ce seuil, tu ne m'as pas adressé une parole amie. Tu ne m'as pas donné des nouvelles de mon père. Crois-tu que je n'ai pas eu mes heures douloureuses, moi aussi?
Tu t'en souviens? Interrogea Jacques, les yeux en pleurs.
Bon, je pleure, expliqua-t-il tout de suite, parce que je suis enrhumé. Ne confonds pas mes larmes avec celles d'un Gabriel.
Mais tu es odieux. On dirait que tu m'en veux. Mais n'est-ce pas moi qui t'ai appelé?
Ce nom de Baigneville ne t'a-t-il pas mieux renseigné que n'importe quel télégramme que j'eusse su ou t'envoyé, et qu'il n'aurait pas laissé partir?
Oui, oui, tu es bien gardé.
Je me demande même comment tu as pu venir ici.
Oh, il ne s'en doute pas. Il repose, je le lui apprendrai demain avec toutes sortes de précautions.
Oh, je t'en prie, Christine, surtout ne néglige pas les précautions. Gabriel est si susceptible.
Et tu ne te doutes pas de ce qu'il est susceptible?
Si, si, mais je vais te fournir un excellent argument dont, je l'espère, il ne pourra être que satisfait. Tout ce que tu viens de me dire au sujet des disparitions de Corbière peut, au besoin, expliquer l'innocence de Gabriel, mais ne la prouve pas. Écoute, Christine, je crois bien que la preuve arrive. Tu n'as qu'à lui dire. Je savais que pendant que nous étions dans ce pays, les disparitions, les crimes, les attentats continuaient à Corbière et même à Paris. Les journaux étaient pleins des gestes redoutables de la poupée sanglante. Je ne t'en ai pas parlé, Gabriel. Tu vois, j'ai pas oublié que vous vous tutoyez. Mais j'ai trouvé le moyen d'avertir Jacques. Lis les feuilles publiques qu'il vient de nous apporter dans un pays bloqué par les neiges et au risque d'un rhume de cerveau, et espère. Sans relever l'affreuse ironie qui soulignait ce petit discours, prononcé d'une voix toujours de plus en plus encombrée par le catarrhe, avec hypersécrétion, Christine s'était jetée sur les journaux et les parcourait d'un œil avide. Quand elle en fut aux dernières indiscrétions signées 3X, elle s'écria
« Oh certes, sa joie va être immense, tu as raison !» « Oh, je peux maintenant lui dire que tu es là. Voilà un prétexte tout trouvé. »«
Remercions-en le ciel, » reprit Jacques, en se mouchant aussi décemment que possible dans un grand mouchoir que cette excellente Catherine avait emprunté dans la pitié que lui inspirait ce voyageur imprudent à son trousseau particulier.
« Remercions-en le ciel, » car cela m'aurait vraiment fait de la peine de repartir sans lui avoir dit un petit bonjour. Il est donc bien jaloux? Ah, mon ami, plus que tu ne pourrais te l'imaginer.
Eh bien, moi aussi, je suis jaloux, s'écria Jacques avec un éclat qui détermina une quinte qui faillit le suffoquer.
Est-il possible? S'exclama Christine. « Tu es jaloux de Gabriel ? Toi, Jacques, la sagesse même, tu es jaloux d'une poupée ?»«
C'est comme je te le dis, Christine. » Pygmalion aimait sa statue, moi je la déteste. Voilà où j'en suis, moi, Jacques, la sagesse même. Et ne fais pas l'étonner, Christine. » Le masque de stupéfaction derrière lequel tu te dérobes est le plus haïssable des mensonges. Une femme, soi-disant honnête, qui nourrit pour l'étranger qui fréquente la maison des sentiments criminels, ne berne pas plus audacieusement son époux que tu ne me trompes. Tu ne m'as jamais aimé, moi. Tu n'as jamais aimé que ton rêve. Et quand tu as découvert mon génie qui se traînait à tes pieds, tu ne l'as relevé que pour qu'il eût la force de donner la vie à l'image insensible caressée par ta pensée. Maintenant que mon œuvre est achevée, Je n'existe pas plus pour toi que l'artisan que l'on met à la porte dès que l'on peut se passer de ses services. Et encore, celui-ci, on l'a payé. Et moi, tu m'as laissé tomber, comme disent messieurs les étudiants, avec un bruit sec et métallique. Mais Jacques, tu es fou, tais-toi. Et que ton regard en me fixant soit moins clair, si tu as encore quelque pudeur. Hier, je l'ai entendu prononcer ces mots. « Si tu n'étais pas ce que tu es, disais-tu à Gabriel, je ne te dirais pas je t'adore. » Mais malheureux, mais je lui disais je t'adore comme une mère le dit à son enfant. Est-ce que Gabriel n'est pas notre enfant? Menteuse. Oui, il est mon enfant, à moi, mais à toi. Allons, Christy, là c'est des grimaces. Est-ce que tu pensais à ton enfant lorsque tes mains d'artiste caressaient l'ébauche de cire, d'où devait sortir sa figure de victoire? Tes mains servaient ton cœur qui roucoulait comme une colombe. Le voilà, celui que j'aurais aimé. Et tu t'es tourné vers moi et tu m'as dit « Souffle sur ce limon !» Et dans mon orgueil insensé, j'ai emprunté l'haleine des dieux et j'ai soufflé. Mais il a vécu et je suis oublié. Mais moi, je regrette que l'enfant de ton génie ne m'ait déchiré. Que vais-je venir entre vous deux? Rassure-toi, j'ai un bon rhume, le rhume se changera en bronchite, la bronchite en pneumonie, et il ne sera plus question que de ton bonheur. Chut! Puis soudain Christine, écoute. Un pas se faisait entendre dans le corridor, un pas au rythme singulier qu'elle connaissait bien. C'est lui, gémit-elle. Le pas de la statue du commandeur n'apportera pas plus d'effroi à Don Juan à l'heure où tout se paie. Que le bruit du pas de Gabriel ne versa d'épouvante au cœur de Christine dans cette modeste demeure des Alpes où allaient se heurter les éléments de la plus grande tragédie du monde. Dans son amour forcené de l'idéal, Christine avait-elle été moins coupable que le prince des Libertins? Plus que le grand cynique, n'avait-elle pas foulé aux pieds les lois divines et humaines? Si c'est un péché d'aimer la chair, ne l'avait-elle pas trop méprisée? N'allait-elle pas être broyée entre ces deux pôles du monde qu'elle avait mis en mouvement, le pur et l'impur? Oh, fit-elle, déjà à demi-morte, que va-t-il se passer? La porte s'ouvrit, c'était lui. Il était enveloppé d'une pèlerine de montagne dont il maintenait les pans croisés devant lui avec un geste digne de la statuaire antique. Son noble front, que ne ridait aucun souci, où ne s'imprimait aucune douleur, miroir auguste de la sérénité, dominait cette scène où, d'un côté, l'inquiétude morale et de l'autre, la misère physique de la pauvre vieille humanité, tremblait devant l'apparition du plus fort que la mort. Son regard s'apesantit une seconde de pitié sur ce petit tas de chair dolente qui grelottait et crachotait au fond d'un fauteuil devant un peu de braise qui achevait de s'éteindre après avoir donné son dernier effort de chaleur. Puis, il se tourna vers Christine, lui prit le bout des doigts dans une de ces attitudes qui rappellent les danseurs du grand siècle au temps de la pavane, ou encore avec cette harmonie céleste que les grands peintres chrétiens ont donnée aux gestes des archanges quand ceux-ci viennent chercher sur la terre l'élu du Seigneur pour le conduire aux demeures éternelles. En vérité, quand Gabriel, tenant Christine par la main, sorti de cette chambre, le front tendu vers les astres, on eût pu croire qu'il allait éployer ses ailes. Il se contenta de refermer la porte. Et le petit tas de chair dolente, grelottant et crachotant, resta tout seul au fond de son fauteuil.